au gré des vagues sur Radio Colomiers.
Bonjour à tous.
Je m'appelle Aurita.
Bonjour, je m'appelle Sean. J'aime bien aller à la mer ou sur les rivières et je fais de l'aviron comme sport.
Bonjour, Elliot.
Bonjour, je m'appelle Yara.
Collège Victor Hugo de Colomiers.
Ce serait bien de vivre au bord de la mer.
Je m'appelle Florian.
On crée des vagues.
Sur Radio Colomiers.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Nous sommes les élèves de 5e 1 du Collège Victor Hugo de Colomiers.
Nous avons travaillé cette année sur le développement durable en lien avec le parcours laïque et citoyen pendant les cours de technologie français, EMI et d'SVT.
Nous allons vous présenter des témoignages sur la navigation, des chroniques sur les comptoirs et les croisières, ainsi que des avis sur l'eau et la préservation de la planète, réalisés en micro-trottoir au sein de la cité scolaire Victor Hugo.
Nous avons réalisé aussi un interview avec Madame Catherine Jandel du CNRS que nous vous présenterons.
Chère Élodie, à l'aube du 15 décembre 1532, nous avons accosté sur les rives du Nil en Amérique centrale. Après de nombreuses tempêtes et maladies qui nous ont coûté la vie de plusieurs de nos hommes, nous étions très affaiblis, mais le peuple nous a accueillis avec beaucoup de chaleur. Et nous avons découvert de nouveaux légumes comme de pommes de terre ou un navet un petit peu plus sucré. Nous avons vu de nouvelles cultures et de nouveaux modes de vie, dont beaucoup d'agriculture et un dégoût des boissons et de l'alcool. J'espère te revoir bientôt et pouvoir te remettre cette lettre entre tes mains, mais je ne sais pas si je pourrai à cause de toutes les tempêtes et des accidents qui pourraient arriver sur le chemin du retour. Ton père qui t'aime.
Du coup, au début, les grandes puissances européennes elles cherchent à exploiter ces richesses des territoires et qui viennent juste d'être découverts, comme l'Amérique et les routes maritimes nouvelles, comme la route des Indes. Un comptoir colonial, c'est une structure à vocation commerciale qui permet aux pays qu'ils contrôlent de s'assurer un approvisionnement en ressources. Et le but est de faciliter le commerce en permettant le développement d'infrastructures locales, comme des routes, des voies ferrées, des habitations, des infrastructures d'entretien de navires, des banques.
Le commerce triangulaire est un commerce qui est entre trois continents, l'Europe, l'Amérique et l'Afrique. Les Européens partaient en Afrique, ils récupéraient des esclaves noirs. Et ensuite, ils partaient pour l'Amérique, et là où ils allaient les échanger contre des matériaux rares, des épices et juste de l'argent. Ensuite, c'était un cycle comme ça, et ça a duré un long moment.
Comment vous voyez les océans dans quelques années ?
Moi, je les vois assez pollués à cause de tous les problèmes de marée noire qu'il y a eu et les rejets du plastique.
Moi, je pense que les océans, il y aura plus d'eau que d'habitude avec le réchauffement climatique et la fonte des banquises.
D'après vous, comment pourrait-on faire pour protéger les océans ?
Peut-être essayer de limiter les transports fluviaux, les croisières, limiter aussi la pêche en gros, et puis une sensibilisation de tous les instants aussi pour éviter de jeter les déchets dans la mer l'été, par exemple.
Est-ce que vous avez un geste contre la pollution l'été ?
Mais l'été, je fais en sorte justement de ne laisser aucun déchet autour de ma serviette et de demander à mes enfants d'en faire de même.
Qu'est-ce que vous aimez faire le plus quand vous allez à la mer ?
Prendre un tuba et regarder les poissons sous l'eau.
Où allez-vous pour aller admirer les poissons ?
Ça fait longtemps que je ne suis pas allée à la mer ni à l'océan. La dernière fois, c'était en Australie.
C'est beau l'Australie, hein ?
Il y a beaucoup de poissons, du coup, à voir.
Aimeriez-vous découvrir le fond des océans et pourquoi ?
Ben oui, parce que c'est très mystérieux.
C'est super beau, en fait. Il y a toute une diversité, une biologie marine qui est vaste, mais elle est en train de disparaître. Donc, voilà.
Bah, moi, j'aime beaucoup les océans et je regarde beaucoup de reportages aussi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de diversité et c'est très intéressant d'en apprendre beaucoup plus sur les océans.
D'après vous, comment pourrait-on faire pour protéger les océans ?
Bah, ça serait de ralentir le coût des le nombre de plastiques qu'il y a dans les océans, à mon avis. Pour qu'il y ait moins de plastique dans les océans et pour. Vous voyez ? Pour moi, à mon avis, ce serait ça, mon hypothèse.
Quel est le geste que vous pourrez faire pour protéger l'océan ?
Ce serait de moins fabriquer tout ce qui est dans la matière polluante, c'est-à-dire généralement les plastiques, pour qu'il y ait plus de matières renouvelables et pour qu'il y ait moins de pollution en général.
Si vous voulez faire des études scientifiques, quelles études voudrez-vous faire ?
Moi, je pense que je vais plus aller pour des études dans la finance, tout ce qui est économique, étudier tout ça. Donc, oui.
J'en sais rien pour le moment, mais oui, j'aime bien la biologie, mais je ne ferai peut-être pas dans les études scientifiques.
Moi, la médecine, ça m'intéresse énormément. Et après aussi, l'étude des fonds marins, c'est quelque chose qui m'a passionnée pendant au moins une année ou deux.
Vu que je fais dans le domaine technologique, ça serait dans l'informatique et l'ingénierie aussi.
Moi, j'aimerais faire vétérinaire et je m'interroge encore sur quels animaux me tourner. Mais du coup, oui, les animaux marins, c'est une possibilité.
Aimeriez-vous découvrir le fond des océans et pourquoi ?
Oui, je trouverais que ça serait quand même intéressant parce que c'est tout noir tout au fond des océans et donc on ne sait pas ce qu'il y a tout en bas. Ça pourrait trouver plein d'espèces qu'on ne connaît pas. Ça pourrait être très intéressant.
Comment voyez-vous les océans dans quelques années ?
Je les vois en très mauvais état parce que vu la cadence à laquelle l'humain les pollue, il n'y aura plus grande espèce dans les océans. Suite au réchauffement climatique, de toute façon, ils vont bien finir par ensevelir la Terre. Donc, la planète sera un immense océan et l'espèce humaine n'aura qu'à s'en vouloir, malheureusement. Et oui, le problème, c'est justement les espèces maritimes qui vont finir par disparaître à cause de la pollution.
Quels gestes nous devons faire pour stopper ça ?
Produire moins de plastique, hein, c'est l'essentiel. Les bouteilles en plastique, les assiettes, les couverts, même des petites actions hein, qui peuvent réduire justement cet ajout de plastique dans les océans. Aussi les énergies non renouvelables, fabriquer de l'énergie renouvelable, de l'électricité avec des éoliennes. Faire des petites actions à sa propre échelle pour que ça finisse pour une échelle mondiale, internationale.
Si vous voudriez faire des études, lesquelles ça serait ?
Alors, je vais partir plutôt sur des études d'art. Mais bon, je fais des études scientifiques au lycée et j'avais comme projet de travailler pour l'écologie, pour fabriquer de nouvelles ressources écologiques, des énergies renouvelables afin d'améliorer notre condition de vie et celle des animaux.
Nous remercions Kaina et son équipe de journalistes qui ont réalisé le premier micro-trottoir sur le lycée.
Ainsi que ceux qui ont répondu aux questions.
Nous allons à présent écouter le témoignage de Roland d'Éthiopie sur son expérience de navigateur suivie d'une chronique sur la croisière.
Elliot et son équipe nous emmèneront dans leur établissement avec leur micro-trottoir.
Nous étions le 23 décembre 1790. Nous étions au cœur de l'Atlantide, au niveau de l'équateur. Il faisait très froid. Nous avions débarqué sur une île a priori déserte, peuplée de beaucoup d'animaux comme des serpents, des moustiques, beaucoup d'insectes, pas beaucoup de viande pour l'équipage. Nous avons dû rester un moment sur l'île car à cause des intempéries qui nous ont empêchés de reprendre la mer. Le voyage ne s'est pas forcément très bien déroulé, car en quittant l'Espagne, nous n'avions pas fait attention que certains de nos marins avaient attrapé la peste avant de partir dans le voyage. Nous les avons donc confinés au fond du navire, en espérant qu'ils vont se rétablir. Le médecin de bord ne sait pas vraiment comment réagir face à la situation. Il tente d'explorer la flore de l'île pour voir s'il ne peut pas trouver un remède. Cordialement, cartographe Roland d'Éthiopie.
Historiquement, le terme croisière voulait montrer la navigation de surveillance qui était effectuée par un ou plusieurs bateaux de guerre. Les croisières pour les touristes ont été inventées en 1844. Comme exemple de croisière connue, on a le Titanic qui coula en 1912. En effet, les armateurs s'étaient tournés vers l'activité croisière qui était plutôt prometteuse et qui reconvertissait les paquebots en navires de croisière.
Que savez-vous de la course Vendée Globe ?
C'est une course de bateau, je ne sais plus exactement quel type de bateau c'est. Et je ne sais plus trop exactement où ça se passe non plus.
Bah, c'est une course de bateau, ça.
C'est une course qui fait le tour.
Ouais, voilà, c'est une course en passant la voile. Qui fait... Alors, quand est-ce que
tu passes par tous les océans et part de Bretagne et revient en Bretagne.
Pas grand-chose.
Vendée Globe. Ah, les trucs de petits bateaux qui sont partis là. Je sais qu'il y a des hommes en solo qui prennent une petite voilier, ils font le tour du monde. Et que c'est sympa, et que ça les apprend à se connaître eux-mêmes, et qu'ils sont près de la nature, et que c'est bien. C'est super bien ces courses. Il y a des super paysages.
C'est une course autour du monde, qui démarre de Vendée et qui revient en Vendée, complètement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir par où ils passent, puisqu'en fait, on se rend compte qu'en bateau, sur la planète, on ne peut pas passer par n'importe où. Les bateaux marchands, ils passent par des endroits particuliers. Par exemple, ils coupent l'Amérique en deux. Il y a un passage. Et puis, sur l'autre côté, il y a aussi un passage. Vous avez dû en entendre parler en Égypte, qu'on appelle le canal de Suez, qui permet aux bateaux marchands de raccourcir. Alors que là, sur les courses à voile, ils sont obligés de passer très, très bas. Ils passent au sud de l'Argentine. Donc, ils passent à des endroits qui sont plus proches des pôles. Enfin, si vous devriez regarder sur une carte, c'est assez rigolo la manière dont un bateau fait le tour du monde. C'est pas tout droit, quoi. Vraiment, ils passent très bas.
D'après vous, à quoi servent les expéditions océanographiques ?
Pour explorer les fonds marins et pour voir la vie marine qui s'y trouve et découvrir
de nouvelles espèces ou... des problèmes suite à la pollution plastique.
Bah, sûrement à faire des enquêtes, à savoir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas dans les océans, j'imagine.
Ah bah ça permet de prendre un petit peu la température de la planète, ça, sur le plan écologique.
À étudier les fonds marins, étudier la pollution dans les océans, étudier la faune marine.
Connaissez-vous l'expédition Tara ? Si oui, pouvez-vous nous dire ce que c'est ?
Alors, je crois, il me semble que c'est une mission autour de la protection des océans et des espaces maritimes. En gros, je crois.
Je ne connais pas du tout, non ?
Non, je ne crois pas connaître l'expédition Tara. Vaguement, peut-être.
C'est quoi, c'est spatial ?
Non, c'est sur les océans.
Ah oui, ça me dit quelque chose. Je me sens qu'il y a une exposition avec un bateau qui surveille... l'évolution de la mer par rapport à la montée en température des océans et de la planète.
Quelles sont les conséquences du réchauffement climatique sur les océans ?
Les icebergs qui fondent, la montée des eaux, les animaux qui sont un peu en danger, la pollution qui va avec.
C'est la fonte des glaciers, la montée des océans et les inondations. Et tempêtes et cyclones, c'est surtout ça, le réchauffement.
Je dirais la fonte des glaces et peut-être la disparition de certaines espèces. Je m'y connais pas spécialement.
Alors j'imagine que ça fait fondre les glaces, le réchauffement climatique, et donc ça provoque une hausse du niveau des océans.
La fonte des glaciers.
Puis les ours polaires, ils savent pas vraiment où aller.
Eh bien, plusieurs choses. La première, la fonte des glaces sur les pôles, qui a tendance à faire monter le niveau de l'eau. Après, je pense qu'au fond de la mer, il y a pas mal d'animaux qui souffrent. Les coraux, principalement. Après, un certain nombre de modifications sur la vie des poissons ou des gros cétacés qui se déplacent, qui ont tendance à changer.
Pouvez-vous nous proposer 3 solutions pour diminuer la pollution dans les océans ?
Arrêter de rejeter des débris dans l'océan, moins de pollution au niveau des bateaux.
La première solution à laquelle je pense, c'est d'abord limiter le transport maritime. Donc tous ces bateaux qui parfois polluent, parce que mal réglés, parce que déchargeant du pétrole un peu n'importe où. J'imagine aussi que pour réduire la pollution des océans, il faut réduire les déchets, tout ce qu'on rejette dans la mer. Et puis certainement aussi les productions, la pollution qui est issue de nos usines et qui se déverse petit à petit dans les rivières et donc dans les océans après.
Utiliser des voitures automatiques,
utiliser tout ce qui est vélo, trottinette, skate et tout ça pour les déplacements petits.
Ça c'est simple, hein. Faut limiter la consommation. C'est embêtant pour vous parce que moi en tant que vieux j'ai consommé à mort. Et vous on vous dit d'arrêter de consommer, donc c'est pas évident. Après le plaisir de la vie c'est pas consommer, c'est les amis, c'est la famille. Je pense qu'on peut avoir beaucoup de bonheur sans obligatoirement se gaver de produits. Essayez de faire durer vos smartphones. Moi, les miens, ils tiennent 7 ans.
Merci à ceux qui ont participé à ce micro-trottoir.
Voici à présent la première partie de notre échange avec Madame Jandel, océanologue et chercheure au CNRS.
Elle revient d'une expédition dans l'hémisphère du sud, dans le cadre de la mission Swing Geotrace, afin de compléter ses recherches.
Bonjour.
Bonjour. Est-ce que vous avez déjà fait le tour du monde en bateau ?
En une seule fois ? Non, mais vu le nombre de campagnes en mer que j'ai faites, j'ai largement fait la distance du tour du monde en bateau. Rien que celle-ci, on a fait près de 20 000 km, c'est-à-dire la moitié du tour du monde. Et j'ai beaucoup exploré l'océan. Moi, je suis océanographe qui va en mer. Voilà, à l'âge que j'ai fait pas mal de campagnes en mer et donc la distance parcourue, mais non, j'ai pas fait le tour du monde en bateau.
Comment utilisez-vous la radioactivité comme chronomètre ?
C'est une super question. Alors, la radioactivité, il y a un élément chimique qui s'appelle l'uranium, qui est le père. Dans la radioactivité, il y a toujours un père et un fils ou un père et une fille. Hein. On n'est pas sexiste, mais bon, en l'occurrence, on dit le père et le fils. L'élément chimique père, c'est l'uranium, et il est totalement dissous dans l'eau. Lui, il est tellement dissous que sa concentration, elle est constante de la surface au fond. Il se désintègre. Il fabrique un fils qui s'appelle le thorium. Le thorium, lui, tac, il n'est pas du tout soluble. Il va aller se coller sur les particules, d'accord ? Et lui aussi, il décroît. Donc lui, il se colle sur les particules. On sait comment il est produit, puisqu'on connaît la vitesse à laquelle le thorium est produit. Et quand il disparaît d'une part parce qu'il se colle sur les particules et d'autre part parce qu'il décroît. Eh bien, l'information de ça, avec 2-3 équations qui ne sont pas très difficiles à comprendre, qui sont un peu encore pour le niveau de cinquième, mais qui ne sont pas difficiles à comprendre, ça nous aide à déterminer la vitesse de chute des particules. Le fait qu'on a un pair qui produit du thorium, qu'on sait à quel rythme il est produit, sa disparition par les particules, ça nous aide à calculer la vitesse de chute des particules.
Pourquoi aimez-vous l'océanographie ?
Alors, j'ai grandi entre la région parisienne et la Bretagne Nord, le Finistère Nord. Et en fait, à 13 ans, j'avais envie d'être océanographe. Je m'en rappelle parce qu'à la cantine de mon lycée, vous savez, on a l'orientation en troisième. 13-14 ans, c'est ça à peu près. Hein. C'est un peu plus âgé que vous. Et l'orientatrice, c'était dans la cantine de mon lycée, je m'assieds à la table et elle dit « Alors, moi, je peux vous raconter comment devenir boulanger ou je sais pas quoi. » Et moi, j'ai dit « Moi, je veux faire océanographe. » Et les filles, je vais vous dire ce qu'on m'a répondu. Je vais vous dire après quelle année c'était, vous allez me trouver très vieille d'un coup. On m'a répondu que c'était pas pour les femmes et que c'était bouché. Je sais plus dans quel ordre. Qu'il y avait pas de débouché et que c'était pas un métier de femme. Voilà, c'était en 1970. Mais vous savez, il y a encore du chemin à courir pour que les filles soient convaincues qu'elles puissent faire des études scientifiques et qu'elles puissent réaliser leurs rêves. Alors, c'est venu par amour de la mer. Moi, c'est vraiment venu pour ça, parce que j'adorais naviguer. Je naviguais avec mes parents, je pêchais avec mes parents. J'allais très peu à la plage et j'ai très, très vite découvert la mer par une approche un peu différente de la moyenne.
Quelle a été la tâche la plus dure à résoudre dans votre carrière d'océanographe ?
Déjà d'être océanographe, hein, quand même. Ça m'a pris un peu de temps. En sortant du bac, j'ai fait ce qui n'est pas obligatoire, je souligne beaucoup. J'ai fait une classe préparatoire et j'ai eu la chance d'intégrer une très très bonne école et ça m'a beaucoup facilité ça. Mais là, par contre, la classe préparatoire, j'ai pas du tout aimé et c'est absolument pas obligatoire pour faire de très bonnes études en France. Voilà. Je souligne parce qu'en terminale, tous vos profs vous disent « Ah, t'es bon élève, va en classe prépa. » C'est ce qu'on m'a fait à moi et j'ai pas aimé. Et je pense que j'aurais quand même été océanographe même si j'étais pas passée par la classe préparatoire. Ceci dit, ça m'a facilité les choses. Après, qu'est-ce qui est compliqué dans mon métier ? Déjà, c'est de développer les protocoles de chimie pour extraire de l'eau de mer des éléments chimiques qui sont très très peu concentrés. Nous, on cherche, pour vous donner une image, l'équivalent d'un chinois sur la population chinoise dans l'eau de mer. Donc ça demande beaucoup de délicatesse et beaucoup d'imagination, mais c'est passionnant. Et ce qui est vraiment très difficile aujourd'hui, c'est d'obtenir l'argent pour faire ce qu'on a fait. Et donc le temps bateau, de réunir les gens. En fait, réunir les gens, non, il y a toujours plein de volontaires, mais les budgets, c'est extrêmement difficile.
Et du coup, est-ce qu'il y avait quelque chose, quand vous avez fait vos études, que vous n'y arrivez pas très bien ou...
Ah, je détestais les maths. Pardon, il n'y a pas de prof de maths ici. J'aimais pas. Et heureusement, en deuxième année de prépa, j'ai eu un professeur qui m'a d'un seul coup donné envie de faire des mathématiques. Parce que... Mais ça a mis du temps. Hein. Alors ça, c'est vraiment très clair. Après tout le reste, j'adorais. Et en particulier, moi, je vous le dis à tous, hein, si vous rêvez de faire des études environnementales, il faut prendre dans votre tête que l'environnement, c'est comme l'océan. Il y a de la physique. Il y a de la chimie, il y a de la biologie. C'est bien de savoir parler aux autres. C'est-à-dire, si tu te spécialises en biologie, c'est très important de continuer à te préoccuper de ce qui se passe en physique. Parce que sinon, tu ne comprends pas. Et donc, il faut avoir cette culture générale. Mais ça, ça ne m'a pas vraiment posé de problème parce que j'étais très, très curieuse. Et puis, ces matières-là, je les aimais beaucoup. Mmh. Même si je n'aimais pas les maths.
À quoi consiste la mission Tara ?
Alors, c'est une mission en mer, comme nos missions. Il y a beaucoup de différences, en fait. Ce que je vous ai montré, c'est un bateau océanographique scientifique qui a été construit pour permettre de faire des mesures scientifiques. Donc, à bord, il y a tout ce qu'il faut, comme électronique, etc. Et on en a, comme ça, en France, 18 de tailles différentes, donc 4 gros et des plus petits. Il n'y a pas Tara dans tout ce que je te dis là. C'est ce que l'on appelle la flotte océanographique française. C'est-à-dire que c'est en fait pour les océanographes des outils qui leur permettent d'aller faire leurs explorations. Okay ? Et à côté, il y a quelques initiatives privées. Et donc Tara est un bateau privé. Il est payé par Agnès B., qui est une couturière, qui est très convaincue et qui fait des choses très bien. Et c'est son fils, qui s'appelle Bruno Troublé, qui s'occupe de réunir les gens, etc. Et Tara ne peut pas prélever en dessous de 150 ou 200 mètres de profondeur. Je vous ai expliqué que nous, on allait jusqu'à 6 km de profondeur. La mer, ça ne s'arrête pas aux 200 premiers mètres. Ce que Tara a permis de faire, c'est une exploration, on appelle ça, nous, taxonomique. Toutes les petites algues, il y en a beaucoup qu'on ne connaissait pas, des petits organismes, il y en a beaucoup qu'on ne connaissait pas. Et comme ils ont fait un tour du monde... Ils sont allés dans l'Arctique, etc. Et ils vont faire la peau de la mer, vraiment. Et ils emmènent à bord, nous on était 48, ils emmènent 6 personnes, hein, à peu près 7 personnes. Ça n'a rien à voir. Et c'est très focalisé sur la biologie. Et l'autre chose qui n'a rien à voir, c'est que ça n'est pas payé par les impôts de vos parents. C'est-à-dire que ce n'est pas public. Ici, vous êtes dans un collège public. Et moi, j'étais sur un bateau d'un service public. C'est-à-dire que je dois présenter un dossier qui est évalué par des gens pour pouvoir obtenir montant bateau, un dossier scientifique. On va le sélectionner parmi d'autres en disant celui-là, il est vraiment bien, il est complet, il argumente comme il faut. C'est essentiel d'aller faire ce qu'elles veulent faire, puisqu'on était deux filles responsables de ce projet. Et on nous donne un temps bateau qui est un budget de l'État, comme on te donne la possibilité de venir étudier ici. Et ça, c'est extrêmement important, parce que ce n'est pas du tout le même fonctionnement. On peut aller sur Tara sans avoir de présélection.
Communiquez-vous avec les gens qui ne sont pas sur le bateau? Si oui, comment et pour quelles raisons?
La réponse est oui. C'est pas ce qui marche le mieux. Alors, vous vous rendez compte, un monde sans Internet? Quelle horreur, hein? Bon, on se désintoxique très vite. Surtout quand on a beaucoup de travail. En fait, Internet à bord marchait très très mal, mais le courrier électronique marchait bien. Donc, on pouvait au moins s'envoyer des courriers électroniques. On n'avait pas droit aux photos attachées. Les photos, je les ai montrées en rentrant. De temps en temps, on envoyait une petite photo pour dire « Oh là là, il y a beaucoup de mer !» Mais la famille, on pouvait échanger essentiellement par mail. Et on a une autre chose, c'est qu'on a interagi avec des collègues à terre. On avait des interactions scientifiques. Et on récupérait quand même, malgré les mauvaises qualités du faisceau Internet à bord, on récupérait quand même des images de la chlorophylle, enfin des images scientifiques qui nous permettaient d'ajuster là où on allait aller prélever. Quand j'étais plus jeune, on prélevait vraiment, on disait « bon, ben, on va aller dans ce coin-là, puis on va faire un prélèvement tous les 0,5 degrés, etc. etc. » sans aller vraiment taper à un endroit particulièrement intéressant. Et là, on récupérait des informations de la Terre qui nous étaient envoyées à bord et qui nous permettaient de dire « oh, ben, il vaudrait mieux qu'on décale un peu le point » pour aller prélever à cet endroit-là plutôt qu'à cet endroit-là. Et ça, ça nous a permis de faire une campagne dans laquelle on est vraiment sûr qu'on a fait des prélèvements aux bons endroits. Et ça, c'est quand même génial par rapport à quand j'étais plus jeune. Alors, pour vous donner une idée, mes premières campagnes en mer, on avait droit à un télégramme par semaine de 30 mots. 30 mots, il fallait être concis. Et en plus, il était amené par le radio qui les récupérait. Il faisait tic, 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 tic. Vous avez l'impression que je parle d'une autre époque, hein, mais je suis encore vivante. Hein. Alors le message, il ne fallait pas qu'il soit trop, trop intime. C'était en gros, le lave-linge est tombé en panne, je l'ai réparé. On avait juste des nouvelles que la famille allait bien. Une fois par semaine, 30 mots, c'était tout ce qu'on avait. Et quand on voulait téléphoner, s'il y avait une urgence, alors on allait sur une grosse machine avec un écouteur où on faisait « à toi ». Écoute-moi. Et ça passait par Saint-Lys Radio, qui est juste à côté. D'accord. Et ça, ça a disparu il y a quoi? Il y a 30 ans. Hein. Après, on a eu des fax et après, on a eu les mails. Il y a depuis 15 ans. Pas beaucoup, hein. C'est très récent.
Comment les animaux peuvent-ils vous aider à étudier les océans?
Surtout les éléphants de mer. Les océanographes, ils vont plutôt en été. Parce qu'il fait meilleur. Même si nous, là, on était en été, hein, c'était l'hémisphère sud. Du coup, c'est un peu dommage parce qu'on n'a jamais les informations en hiver. Ce qui, scientifiquement, est gênant. Si on a toujours la même saison, il y a des choses qu'on ne voit pas et donc qu'on a besoin de voir. Et j'ai des collègues qui se sont aperçus que l'éléphant de mer, il plongeait jusqu'à 800 mètres de profondeur et qu'il va en hiver, enfin, quand il quitte les îles Kerguelen, il va jusqu'à la côte antarctique, y compris en hiver. Alors, les éléphants de mer se sont retrouvés équipés de petites balises qui enregistrent. Alors, ils ne font pas les mesures de fer, hein, comme nous, mais ils vont enregistrer la température, la salinité, l'oxygène, un certain nombre de conditions qui permettent ensuite, surtout à la circulation, d'être mieux comprise. Mais c'est important parce qu'on surveille la circulation, est-ce qu'elle se réchauffe, etc. etc. Voilà. Donc, oui, les animaux nous aident.
Vous avez voyagé pendant le Covid et est-ce que vous avez eu des cas de Covid ou d'autres maladies?
Non, mais alors, ça a été un champ de mine, notre affaire. Depuis qu'on a commencé à travailler intensément sur le projet, parce que ça fait 10 ans qu'on y réfléchit, 3 ans depuis 2017, 2018, 2019. Bon, donc la Covid s'est déclenchée début 2019. Et toutes les réunions qu'on faisait, tous les trucs qu'on faisait, on s'est dit, c'est pas possible, on va avoir des malades. On n'en a pas eu. Mais pour embarquer, on a fait un test 8 jours avant de prendre l'avion, parce qu'on a pris l'avion pour la réunion, un test 2 jours avant de prendre l'avion, un test en arrivant sur le quai du bateau avant de monter à bord, et un test au bout de 10 jours à bord, et un test en débarquant. Moi, je suis hyper testée, je peux vous dire. Et donc, je me suis fait gratter le nez plein de fois. Et donc, non, miracle, quand on a eu tous les tests de fait, mais les gens ont été, ils avaient vraiment très envie d'être à bord, hein, donc ils ont été super sérieux. On n'a pas eu de Covid, on est passé à travers les gouttes, comme on dit.
Est-ce que vous avez vu des masques flotter dans l'eau ou pas ?
Non, on a vu des plastiques. On est allé au large très très vite, hein. Vous avez vu, on était vraiment en pleine mer. On voyait, sauf quand on était près des îles, on voyait aucune côte. On n'a pas vu de masque, on a vu quand même des déchets, mais pas tant que ça en fait.
Quelle est votre implication politique en tant qu'océanographe ?
Un chercheur, la première chose qu'il fait, c'est quand on communique comme ça, c'est de vous donner des éléments objectifs. Je vous raconte comment ça va l'océan. Alors je vous raconte surtout ce qu'on cherche à comprendre dans l'océan. Ce que l'on constate, c'est qu'il va mal. Il y a les plastiques, hein, parce que ce n'est pas parce qu'on n'en a pas vu beaucoup qu'il n'y en a pas. Tout le monde en parle, mais il y a aussi le réchauffement climatique. Et il y a aussi, quand le gaz carbonique se dissout dans une eau comme celle-là, il acidifie légèrement l'eau. Si vous mettez du vinaigre sur un bout de calcaire et ça mousse, parce que ça dissout, ça marche très bien, ça m'a énormément marqué, ça a dû être déterminant dans ma vocation de géologue océanographe. Donc vous mettez du vinaigre sur un petit bout de calcaire, vous pouvez le faire chez vous, vous voyez que ça mousse et que ça se dissout. Si vous acidifiez la surface de l'océan, vous mettez en danger les organismes calcaires qui y vivent. Il y en a beaucoup, hein. Il y a des petits escargots, il y a des petites algues, etc., qui ont des coquilles calcaires. Et il y a les huîtres et les moules. Donc, l'océan est en danger, l'océan se réchauffe, la circulation va changer, ça a un lien sur le climat. À partir du moment où on se préoccupe du climat et on est au courant de ce qui se passe, on peut le dire aux gens. C'est différent d'être objectif et de raconter les choses scientifiques et de rester neutre. Et rester neutre est de plus en plus difficile parce qu'on sait que ça va très mal, que le réchauffement c'est une catastrophe. Je ne vais pas vous paniquer ici, mais sincèrement, on sait que ça ne va pas bien. Certains d'entre nous, dont je fais partie, moi je me suis engagée politiquement. Après, on n'est pas obligé. Il y en a qui ne le font pas. Par contre, dans nos conférences, on est obligé de dire les choses comme elles se passent, et les choses comme elles se passent, elles ne sont pas rassurantes pour les politiques. Donc, on sert quand même à la décision politique par la culture que l'on apporte.
Quel est votre meilleur souvenir en mer ?
Là, l'île de Heard et les aurores australes.
Avez-vous
je suis obligée d'en donner deux. Et je vais te raconter une dernière chose, c'est qu'à 8-10 ans, je rêvais d'aller à Kerguelen. La première fois que j'ai mis le pied sur l'île Kerguelen, mais ça, c'est pas en mer, mais bon, c'est un bateau qui m'a amené là-bas. Bah, j'ai pleuré de joie, vraiment. Et j'avais, c'était en 1987, donc j'avais 30 ans, quoi.
Avez-vous déjà eu le mal de mer ?
Non, j'ai beaucoup de chance. Même quand il y a 18 mètres de creux, j'ai découvert que dans mon corps, il y avait des intestins qui bougeaient, l'estomac qui bougeait. Mais ça m'a fait très bizarre. Mais non, je n'ai pas le mal de mer.
Et j'ai une dernière question. Quel est votre ressenti de la mer ?
Waouh, c'est beau. Un grand sentiment de liberté. Homme libre, toujours tu chériras la mer. C'est trop facile. En fait, je suis extrêmement heureuse quand je suis en mer. Et ça m'apporte énormément de bonheur, rien que d'être en mer. Et je pense que c'est beaucoup lié à ce sentiment de liberté et de beauté.
D'accord, merci. Nous arrivons à la fin de la première partie de notre émission.
Nous remercions Madame Jandel d'avoir répondu à nos questions.
Nous remercions aussi toutes les personnes qui nous ont aidés à préparer cette émission de radio.
Radis Sound, les chemins buissonniers, le département de la Haute-Garonne pour le parcours laïque et citoyen.
Nous remercions enfin nos professeurs et notre proviseur Madame Moudin de nous avoir permis de réaliser ce projet. 1, 2, 3, 1.
Au gré des vagues sur Radio Colomiers.
Je m'appelle Eléa.
Mohamed. J'aime bien aller au bord de mer en Espagne.
Aïe.
Mon animal marin préféré est l'orque.
Je m'appelle Thomas. J'ai pas le mal de mer.
Je m'appelle Zoé.
Je m'appelle Souleymane.
Sur Radio Colomiers.
En 5e, on est au collège Victor Hugo à Colomiers.
Au gré des vagues.
Pour les musiques, vous avez pu entendre des extraits de Full Up Jump by Spectacular Sound, Orlando de la Suze, Zap Mama What Did You Say, des chants marins. Les bruitages sont de la BBC et de Universal Sounds.